Comme chacun ici le sait, le XIIIe siècle a été un moment d'apogée dans le Moyen-Âge occidental. Il a été aussi un siècle de réformes religieuses. Vous pensez tous à Saint-Dominique et vous avez raison. Vous pensez aussi à Saint-François, vous avez raison encore. Mais aussi un siècle de réformes administratives. Et pour être bien dans le temps de son époque, le dauphin, tout autant que son voisin, le comte de Savoie, a modernisé son administration dans sa principauté. Cette amélioration a produit des archives qui font la joie, parce qu'elles sont précieuses, des historiens, parce que c'est une source d'informations très importante sur la vie économique et sociale du Dauphiné au XIIIe siècle. Et ces archives, d'ailleurs, sont encore très imparfaitement exploitées. Mais qu'a donc fait le dauphin? Non, je ne vais pas faire une thèse sur le sujet. Qu'a donc fait le dauphin pour moderniser son administration et la rendre plus efficace? Il a fait le bilan de toutes les taxes qui lui étaient dues. Il a établi la liste village par village, non pas du nombre des habitants, comme on s'y attendrait nous autres aujourd'hui, mais du nombre de ceux qui, lui, devaient des taxes, sans dénombrer les autres dans chaque village, c'est-à-dire ceux qui devaient quelque chose à un autre seigneur, le seigneur local, comme le comte de Sassenage, ou bien l'évêque, ou bien les abbayes de la région. Autrement dit, le dauphin a modernisé son administration pour mieux recenser ses revenus, afin de les percevoir bien plus efficacement. Tout cela est très conforme à ce que avait dit le prophète Samuel au peuple d'Israël quand Israël avait voulu un roi. Les rois, ce furent Saül, puis David. Voici ce que dit Samuel. Voici le droit. J'avais pas prévu qu'on l'entendrait au lot de ce matin. Voici le droit du roi qui va régner sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à sa charrerie et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les emploiera comme chefs de 1 000 et comme chefs de 50. Autrement dit, il prendra vos fils pour en faire ses soldats. Et ensuite, il faudra qu'ils travaillent pour lui, les garçons comme les filles. On continue. Il leur fera labourer son labour, moissonner sa moisson, fabriquer ses armes de guerre et les harnais de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Et enfin, le roi s'approprie les richesses. Il prendra vos champs, vos vignes et vos oliveraies les meilleures et les donnera à ses officiers. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme et la donnera à ses eunuques et à ses officiers. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes, de vos bœufs et de vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Il prélèvera la dîme sur vos troupeaux et vous-même, c'est le pire de tout, deviendrez ses esclaves. Quelle charmante description de la royauté par le prophète Samuel. Cela n'a pas empêché certains rois d'essayer de bien faire, tel, pour rester au XIIIe siècle, Saint Louis. Il a réformé la justice dans son royaume pour qu'elle soit administrée de façon plus efficace, c'est-à-dire plus juste, en faisant attention aux pauvres et aux faibles. Et il a eu raison, et c'était une grande réforme. Mais il a aussi chassé les Juifs de son royaume, car il rêvait d'avoir un royaume pleinement chrétien. Et vous le savez, les Juifs se sont réfugiés dans le comtat venaissin, où qui était dirigé par l'administration pontificale. Si Dieu, il faut quand même que j'en arrive à un sermon, si Dieu est contre la monarchie en Israël, c'est parce que le vrai roi d'Israël, c'est Dieu lui-même, le Saint d'Israël, qui donne la victoire aux armées, assure la prospérité des récoltes et apaise les cœurs emportés. Les rois humains, eux, ne sont, même s'ils sont de la meilleure volonté, ne sont en fait qu'un pâle reflet très insuffisant pour dire la grandeur, la gloire et la magnanimité de Dieu. Dans cette solennité du Christ roi, nous avons l'occasion de célébrer le vrai roi du monde, Dieu lui-même. Et le Christ était le seul qui peut, il est le seul qui peut tenir cette place, parce qu'il est l'un de nous, c'est notre roi. Il est comme nous parce qu'il s'est incarné, et il est pleinement Dieu car il est le Verbe. Dans les textes de ce jour, l'Apocalypse et l'Évangile de Saint Jean, on voit que la royauté du Christ est toute différente de la royauté du dauphin, de Saül et même de Saint Louis. Dieu règne en donnant et en donnant gratuitement. Il crée le monde et il nous y place. Il donne le pardon qui est une grande victoire. Et il fait de nous tous son peuple. On cite l'Apocalypse. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, pardon, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Dieu règne en se donnant lui-même. Et Pilate est impressionné. Il a devant lui, totalement humilié et livré comme un malfaiteur, quelqu'un dont il pressent qu'il a quelque chose de spécial, dont il pressent la royauté, ce qui, à mes yeux en tout cas, même si c'est une lecture un peu psychologique, explique en partie pourquoi il pose ces questions sur la royauté de Jésus. Il le pressent de manière confuse, mais à mes yeux en tout cas réelle. La passion du Christ montre à quelle extrémité Dieu, notre roi, est disposé pour se donner à nous et pour être reçu par nous. Le Christ est roi de l'univers, mais il n'est pas préoccupé par les taxes à percevoir ou par les guerres à remporter. Ce qui motive notre roi, c'est de venir à notre rencontre, de se donner à nous et que nous le recevions. Les rois hellénistiques, c'est-à-dire entre Alexandre le Grand et Hérode, ces rois se pensaient comme des évergètes, c'est-à-dire des rois qui font le bien de leurs sujets. Ils utilisaient leur pouvoir et leurs richesses pour organiser la défense des villes ou bâtir des temples magnifiques. Évidemment, on pense à Hérode qu'il a fait pour montrer qu'il était roi en Israël, alors que sa légitimité est discutable. Mais le Christ est un roi qui se donne lui-même à son peuple et pour son peuple. Il donne sa vie sur la croix pour le pardon des péchés, et il donne sa vie dans l'Eucharistie que nous célébrons maintenant et où nous mangeons le pain de vie qui est Dieu lui-même. Dans la liturgie byzantine, pendant la grande entrée des dons, c'est-à-dire pendant la procession d'offertoire, eh bien, pendant ce temps-là, le peuple chante « Déposons tout souci du monde pour recevoir le roi de l'univers » invisiblement escorté des cœurs angéliques, ce qui rend notre vie sublime, c'est de recevoir Dieu en nous, de recevoir sa majesté, comme dirait Thérèse d'Avila, en nous. Et ce qui caractérise le royaume de Dieu, c'est de se donner. Ne sommes-nous pas, nous aussi, par le baptême, prêtres, prophète et roi. Nous avons reçu cette royauté qui vient de Dieu et nous sommes invités à la vivre en nous donnant à notre tour. Mais en donnant quoi? En donnant nous-mêmes, comme le Christ. Ce peut être un don matériel, ce peut être un regard bienveillant, un encouragement pour quelqu'un qui est dans l'épreuve ou du temps. Pour écouter, aimer les autres. C'est très simple de se donner, et c'est une grande victoire, digne d'un roi très glorieux.